C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Danzig. Auteur Joseph Roth, écrivain, 1894-1939. Autrichien, juif, hétérosexuel, aurait pu devenir assez riche grâce au succès du roman dont je vais parler, mais en tant que juif, il a été privé de ses droits d'auteur par les lois nazies. Œuvre La Marche de Radetzky, Radetzky Marche, 1932, première traduction française, 1934. Personnage Charles Joseph von Trotta. Adaptation, mini-série allemande réalisée par Gernot Rohl et Axel Corti en 1994, le personnage de Charles Joseph von Trotta étant interprété par Tilman Günther. Je connais peu de choses aussi répugnantes que les valses de Vienne. Cette fausse allégresse à arrière-fond militaire, ce tour de manège pour gens de pouvoir, cette démagogie de la joie. Elle n'est battue en frivolité funèbre que par les marches militaires. Ah, la marche de Radetzky. Quand j'entends ça, je pense à l'indifférence au malheur, à l'écrasement des faibles, à la transpiration malsaine de l'exaltation, à cette phrase sublime d'un oracle sibyllin que rapporte Plutarque. Le vaincu pleure, quant au vainqueur, il est perdu. Composé par Johann Strauss pour célébrer la victoire des Autrichiens contre les Italiens en 1848, il ne s'est suivi de la marche de Radetzky que le lent effritement de l'Autriche-Hongrie sous la conduite comateuse d'un empereur François-Joseph transformé en fétiche. Je connais peu de pays qui aient autant réussi à se faire plaindre tout en étant moins à plaindre que l'Autriche. Cette nation qui a humilié tant de nations, de l'Italie à la Serbie, cette nation qui durant les deux guerres mondiales a été du côté des agresseurs et de la destruction de l'humain, cette nation qui est le pays natal d'Adolf Hitler, cette nation qui, après la guerre, s'est donnée pour président un ancien nazi, Kurt Waldheim, cette nation s'est persuadée qu'elle n'était coupable de rien et avait été abusée par l'Allemagne. Elle s'est racontée, et elle a raconté, une légende rose, notamment au moyen de films comme Sissi Impératrice, dont j'ai récemment parlé dans Personnage en personne, la montrant comme un pays rupestre, courageux, galant, élégant, qui n'aimait que danser et faire des révérences aux duchesses, rappelant tout à fait en cela le sud des États-Unis et son idéologie de dentelle à la OTAN en emporte le vent. Oui, la dentelle, oui, les valses, avec l'esclavage des Noirs et la persécution des Juifs. La marche de Radetzky, c'est aussi un des meilleurs romans sur l'effritement de l'Empire austro-hongrois qui utilise finement la musique de Strauss pour le souligner. Au début, la marche est triomphalement jouée après la victoire de Solferino, puis elle revient comme un leitmotiv, de moins en moins brillant, jusqu'à une dernière fois où on l'entend jouer dans une taverne où Charles Joseph von Trotta passe la soirée avec un ami médecin qui mourra le lendemain dans un duel. Dans une similitude de prénoms, Charles-Joseph a déchu, comme François-Joseph a déchu, et son empire tombe, comme le roman finit. Qui est Charles-Joseph von Trotta? Pour en parler, je reçois Stéphane Penel, maître de conférence à la Sorbonne, traducteur, co-directeur du volume collectif Joseph Roth, L'Exil à Paris en 2017, et préfacier de La Marche de Radetzky dans l'édition Point Seuil. Stéphane Penel, avant de nous dire à quoi ressemble Charles-Joseph von Trotta, je voudrais que vous me racontiez son origine familiale et comment il se retrouve noble alors qu'il est, je crois, le petit-fils d'un Slovène de modeste origine.
L'origine familiale de Charles-Joseph von Trotta est effectivement située en Slovénie, puisque le tout premier personnage de la lignée qu'on rencontre dans le roman, Joseph Trotta, est un simple sous-officier de l'armée austro-hongroise qui, sur le champ de bataille de Solferino, sauve la vie à l'empereur François-Joseph dans un acte de bravoure que le narrateur accompagne de certaines remarques ironiques, critiques, laissant penser qu'il s'agit surtout d'un réflexe de survie que n'avaient pas les hauts gradés placés à côté de lui. Et à la suite de cet acte de bravoure, il est anobli par l'empereur et son haut fait, son action héroïque, est relatée dans les manuels scolaires de la monarchie de manière extrêmement triomphale, extrêmement enjolivée. Donc il devient de simple petit Slovène un Autrichien, comme il le dit lui-même, le destin a fait de nous des Autrichiens, et à partir de ce moment-là, il va en quelque sorte gommer ses origines slovènes pour se prévaloir surtout de son identité autrichienne, c'est-à-dire de son identité austro-hongroise.
Slovène, qu'est-ce que ça voulait dire exactement dans l'Empire d'Autriche? J'ai regardé que dans ce pays qui avait 28 millions d'habitants pardon, à l'époque, les Slovènes étaient 1 300 000, c'est-à-dire 4,5% de l'ensemble de la population, ce qui les rendait beaucoup moins nombreux que les Tchèques et les Polonais, par exemple. Est-ce que c'était une minorité importante? Ou Roth, en choisissant un Slovène, veut-il signifier quelque chose de singulier?
Alors, ce n'est pas une minorité extrêmement importante, numériquement déjà. Culturellement, ce n'est pas celle qu'on entend le plus dans l'Empire austro-hongrois, puisqu'on entend davantage les Tchèques avec le renouveau culturel tchèque, ne serait-ce que dans la musique avec Smetana et Dvorak. On entend bien davantage les Hongrois. Roth, c'est plus à prendre un personnage slovène pour faire un écho avec la Galicie, dont il est originaire, qui, elle, est située à l'autre extrême de l'Empire, qui est une province orientale, un pays de la couronne situé à la frontière avec l'Empire russe. Et Roth travaille dans le roman cette idée que la Slovénie serait une lointaine cousine de la Galicie, insistant dans les deux cas sur justement le caractère modeste de cette origine.
Une chose assez frappante dans la famille von Trotta, puisqu'on en suit trois générations en réalité, c'est que celui qu'on surnomme le héros de Solferino, quand il découvre dans le livre d'histoire la façon dont son geste a été héroïsé, il en est choqué, il emploie lui-même le mot d'imposture et il rêve de retomber dans l'oubli.
C'est un personnage qui se présente dans le roman comme un chevalier de la vérité, qui ne supporte pas le travestissement héroïque de son acte, qu'il remet à sa juste mesure en expliquant qu'il s'agissait précisément d'un geste normal en présence de l'empereur et d'un geste de survie, non seulement pour l'empereur, mais aussi pour l'empire, parce qu'il a cette idée très forte dans l'Empire austro-hongrois que l'empereur est le couronnement de la pyramide. L'empereur est celui dans lequel se réalise ce qu'on appelle en allemand la Personal Union, c'est-à-dire l'union de toutes les provinces et surtout l'union des deux grandes parties de la monarchie. Donc l'empereur complètement identifié et complètement superposable à la monarchie elle-même. Et cette décision de demander qu'on enlève des manuels scolaires de la monarchie, cette description extrêmement héroïsante, assez kitsch au fond, est une manière pour Joseph, devenu von Trotta, de se poser en défenseur d'une vérité simple, d'une action non enjolivée.
Son fils, lui, devient préfet et c'est, comme son père, un homme droit. Ce ne sont pas des gens qui abusent de leur titre de noblesse. J'ai dit qu'ils avaient été faits barons, mais au fond, ça n'est pas si important pour eux. Ce qui est important, c'est le service de l'État et il apparaît avec le personnage du père, donc du fils de celui-ci, quelque chose de très caractéristique qui est la méticulosité bureaucratique de l'Autriche à cette époque-là.
Oui, alors l'éthique du service, c'est quelque chose qui caractérise aussi bien le héros de Solferino, entre guillemets, que son fils François préfet. Et ce n'est pas anodin si Roth a choisi ces deux personnages qui ont en quelque sorte valeur métonymique, puisque l'un renvoie au monde de l'armée, et l'autre renvoie au monde de la haute administration, qui étaient les deux piliers sur lesquels reposait la monarchie austro-hongroise, les deux piliers à l'intérieur desquels la langue de communication était l'allemand, la langue commune, et il représente finalement cette manière aussi de créer l'unité dans la diversité, de réussir à homogénéiser tous ces peuples sans leur dénier leur spécificité culturelle et linguistique, puisqu'ils se situent à un niveau supérieur, à un niveau supra-régional en quelque sorte. La méticulosité du préfet von Trotta, c'est effectivement sa manière d'être précis dans le service, mais c'est aussi une façon d'être, une manière d'être dans l'existence que Roth va associer à une forme d'aveuglement, puisqu'en s'occupant uniquement des petites choses, de la régularité, ce personnage s'interdit de voir les bouleversements qui ont lieu. Et à travers ce personnage, qui encore une fois a valeur exemplaire, a valeur métonymique, Roth critique l'aveuglement des hautes sphères de la monarchie austro-hongroise face à des évolutions sociales, politiques qui étaient en cours dans la monarchie.
Et celui qui est le personnage dont nous allons parler, qui est donc Charles Joseph, le fils de ce préfet, c'est avec lui que les choses commencent à s'effriter. Lui, on n'arrête pas de lui rappeler qu'il est le descendant du héros de Solferino, et ça crée en lui quelque chose comme un blocage ou une timidité. Il devient rêveur, mais de son rêve, il ne fait rien, au fond.
Oui, parce que c'est un personnage qui est écrasé par la stature non seulement du père, ce qui serait assez classique, mais en plus par la stature du grand-père. On ne cesse de lui rappeler l'acte héroïque de son grand-père et on ne cesse de lui rappeler qu'il est le descendant du héros de Solferino, ce qui l'enferme dans une forme de malédiction. Roth travaille dans tout le roman cette idée que la grâce reçue par le héros de Solferino est en fait une forme de malédiction qui a arraché la famille à ses origines modestes, à son bonheur idyllique sûrement fortement idéalisé, fortement enjolivé, mais en tout cas qui les a arrachés à un anonymat slovène dans lequel ils pouvaient couler une existence relativement modeste et inaperçue. Et Roth va s'amuser également à loger au cœur du roman une scène très intéressante qu'il faut mettre en relation avec cette grâce transformée en malédiction. C'est une scène où l'empereur François-Joseph reçoit son coiffeur, enfin se fait tailler la barbe et les cheveux par son coiffeur. Et le coiffeur ne rêve que d'une chose, c'est de quitter l'armée. Et François-Joseph lui donne un grade supérieur qui, du coup, l'enferme à nouveau dans l'armée. Cette scène est, en quelque sorte, en creux, un rappel de ce qui se passe avec le héros de Solferino dans le roman.
Charles-Joseph devient militaire dans la cavalerie. Il a un ami, un médecin major. Et l'intéressant est que tous les deux sont des petits-fils. Ce Charles-Joseph est attaché à son grand-père, donc le paysan héroïque, tandis que le major, lui, est attaché au sien, qui est, je cite, un vieux grand juif à barbe d'argent. Et une chose intéressante, est-ce que c'est parce que le romancier lui-même était juif, c'est que Charles-Joseph est dépourvu d'un défaut assez fréquent de l'Autriche à cette époque, qui est l'antisémitisme.
Oui, Charles-Joseph n'est jamais présenté comme antisémite. Enfin, il n'a pas de jugement, il ne porte aucun jugement sur les juifs à l'intérieur de la monarchie. Je pense qu'on ne peut pas pour autant généraliser. Les juifs étaient relativement bien intégré à l'intérieur de la monarchie austro-hongroise. Il y avait quelques bastions de l'antisémitisme et il y a eu pendant très longtemps un maire antisémite de Vienne que François-Joseph détestait et que Joseph Roth détestait. Mais il y avait une relative intégration des juifs, y compris dans l'armée. Donc ce médecin d'origine juive qui sert à l'intérieur de l'armée n'est pas quelque chose d'étrange pour Charles-Joseph. Et effectivement, ils vont se trouver liés par une communauté de destin, en quelque sorte, par le fait qu'ils sont tous les deux des petits-fils et qu'ils sont tous les deux sous la stature, encore une fois, écrasante d'un grand-père, pour Charles-Joseph, le héros de Solferino, et pour le docteur Max Demant, ce vieux cabaretier juif galicien, originaire très certainement des mêmes contrées que l'auteur lui-même. Et il n'est pas impossible que Joseph Roth ait portraituré dans ce vieux cabaretier juif dont on entrevoit juste la silhouette son propre grand-père qu'on voit sur une des rares photographies de famille qui nous reste, qui est précisément un juif hassidique à très longue barbe blanche, vêtu du caftan et portant un couvre-chef noir.
Alors Charles-Joseph devient une vie un peu médiocre et même assez médiocre dans sa garnison. Il devient alcoolique, joueur, il a des histoires de femmes, mais de peu d'importance. Il n'a pas de femme ni d'enfant. Et on a l'impression que par là, Roth veut symboliser que sa famille va s'éteindre comme l'Autriche va s'éteindre d'une certaine façon.
Oui, encore une fois, beaucoup d'analogies à l'intérieur de ce roman entre la microstructure et la macrostructure, entre le devenir des personnages individuels et le devenir de la monarchie, ce que j'appelle volontiers une des structures métonymiques ou des structures d'exemplarité. Charles-Joseph n'aura pas de descendance, mais encore une fois, il n'est pas complètement impossible que l'auteur lui-même se soit transféré à l'intérieur de son personnage, puisque lui aussi n'a pas eu de descendance, n'a pas eu de famille. Et comme Charles-Joseph, Joseph Roth a été extrêmement malheureux en amour.
Le début du XXe siècle à Vienne, c'était les écœurantes valses de Strauss, mais c'était aussi le moment de Mahler, de Berg et de tant de créateurs face aux faiseurs. Nous allons entendre la sonate pour piano en si mineur opus 1 d'Alban Berg, interprétée par Daniel Barenboim. L'enregistrement date de 1978. Stéphane Penel, Charles-Joseph von Trotta, le héros ou le anti-héros de la marche de Radetzky de Joseph Roth dont nous parlons, démissionne de l'armée, a une nouvelle vie à la campagne et quand la première guerre mondiale éclate, il retourne à l'armée et on entend à nouveau la marche de Radetzky, la musique.
Oui, le roman est l'histoire d'une longue déchéance, bien avant le moment où la Première Guerre mondiale est déclarée, puisque le parcours de Charles-Joseph est un parcours qui fonctionne sur une dégradation progressive de son statut. Il commence dans la cavalerie, ensuite il est muté dans l'infanterie à la frontière orientale de l'Empire austro-hongrois, puis à la suite d'histoires de jeux et de malversations financières, à la suite aussi d'une grève ouvrière pendant laquelle il est blessé et pendant laquelle des ouvriers sont également blessés ou tués, Charles-Joseph va décider de quitter l'armée, en demander la permission à son père, puisque là encore c'est un geste qui ne se fait pas spontanément de sa propre décision, et connaître de manière très fugace cette idylle du retour aux origines slaves, la Galicie dans laquelle il réside étant fantasmée à nouveau comme une sœur lointaine de la Slovénie. Charles-Joseph voulait retourner en Slovénie, voulait connaître cette existence modeste qui avait été celle de ses ancêtres. Il ne lui est pas permis de retourner jusqu'en Slovénie, mais il pense réaliser ce rêve en Galicie en travaillant comme intendant du domaine du comte Chojnitsky. Et effectivement, cet accomplissement final est ruiné, réduit à néant par le moment où la Première Guerre mondiale éclate. Et Charles-Joseph va entendre une toute dernière fois, sur un mode dégradé, sur un mode affaibli, la marche de Radetzky, puisque cette musique ne va plus retentir que comme une musique mentale au moment où, sur le champ de bataille, est écrasé par le soleil qui est incandescent à ce moment du roman. Charles-Joseph va parcourir le champ de bataille à la recherche d'eau pour donner à boire à ses soldats.
Il meurt d'une façon extrêmement ironique. En se penchant sur le puits, il reçoit une balle perdue.
Exactement, c'est vraiment l'ironie du sort, puisque les rêves d'héroïsme qui lui avaient été inculqués et que lui-même avait intériorisé, parce que dans le roman, il y a non seulement ce qui vient de l'extérieur, ce qui vient des figures paternelles, mais il y a aussi tout ce que le personnage par lui-même assimile et intériorise comme contrainte psychologique. Ces rêves d'héroïsme, donc, ne se concrétisent pas. Ils sont battus en brèche à plusieurs reprises dans le roman. Là où son grand-père avait sauvé l'empereur, lui sauve un portrait de l'empereur dans un bordel. là où son grand-père, en sauvant l'empereur François-Joseph, avait été blessé à la clavicule par une balle ennemie, lui reçoit un projectile lancé par des ouvriers pendant la fameuse grève. Et là où l'héroïsme aurait pu s'accomplir pendant les premiers combats de la Première Guerre mondiale, et il faut se souvenir que cette Galicie, ce front de l'Est, a été extrêmement meurtrier dès le mois de septembre 1914. Il y a un poème de Georg Trakl qui rappelle la violence et le caractère absolument inouï de cette guerre dans les tout premiers mois, les tout premiers jours de la guerre. Eh bien, à ce moment-là, l'héroïsme n'est plus possible. C'est peut-être aussi parce que l'héroïsme appartient à une époque révolue, l'époque chevaleresque des officiers d'autrefois, mais qu'avec la Première Guerre mondiale, on entre dans la mort de masse et dans l'anonymat des combats, dans une guerre technicisée, matérielle, et que l'héroïsme à ce moment-là n'est plus possible. Je pense qu'il y a aussi cette conscience-là chez Joseph Roth, qui a toujours fait de la Première Guerre mondiale une césure extrêmement décisive dans l'histoire de l'Occident.
Qui fait peut-être que d'ailleurs, ce roman qu'il a écrit bien des années après, dans ce roman, il idéalise peut-être un peu ce qu'a été l'Empire d'Autriche, probablement aussi parce qu'il écrit ça au moment où le nazisme prend de la puissance et que pour lui, finalement, tout ça n'était pas si mal. Mais là où je voulais en venir, c'est que il y a dans le ton du roman de Roth, un scepticisme désolé, en plus de cette ironie qui rappelle un autre écrivain qui décrit une fin de monde, qui est Marcel Proust. Et d'ailleurs, là, vous disiez que le personnage récupère un portrait de l'empereur dans un bordel, et ça rappelle tout à fait la scène où Robert de Saint-Loup, dans À la recherche du temps perdu, récupère sa Légion d'honneur dans un bordel. C'est la même tonalité, non ?
Oui, c'est tout à fait la même tonalité, chez les deux écrivains, cette capacité en même temps à suggérer, par la richesse de leur écriture, des atmosphères nostalgiques, des atmosphères extrêmement suggestive quand Roth parle de l'Autriche-Hongrie. Et je crois que la richesse de ce roman et le fait qu'il continue de nous interroger, c'est que justement Roth est capable d'y mêler la nostalgie, l'évocation suggestive d'un monde disparu et en même temps une bonne dose d'ironie critique face à ce qu'était ce monde-là. Et je crois que ça, c'est aussi quelque chose qui pourrait le rapprocher de Proust, même si leurs esthétiques sont par ailleurs assez différentes, puisque Roth est quelqu'un qui est plutôt dans la concentration, presque minimaliste parfois, et Proust est beaucoup plus disert et beaucoup plus riche encore dans les descriptions atmosphériques.
Une chose qui me paraît tout à fait remarquable dans L'homme sans qualité, c'est que c'est un des rares romans sur la fin d'un empire écrit par un natif de cet empire. Probablement ont-ils pu écrire ces livres parce que ils ont écrit avant la période vraiment impardonnable qui était la Deuxième Guerre mondiale. On ne voit pas un écrivain allemand oser raconter avec nostalgie, comme le fait un peu Roth, la fin de l'Empire d'Allemagne, par exemple.
Non, cela c'est impossible, et la fin de l'Empire d'Allemagne, elle a été racontée de manière extrêmement critique, par exemple par Heinrich Mann dans Le sujet de l'Empereur. Ce n'est pas envisageable sur ce mode-là pour l'Allemagne. Pour l'Autriche, les deux exemples que vous citez, Roth et Musil, ont cet aspect important qu'il s'agit d'écrivains qui viennent des deux bornes, en quelque sorte des deux extrêmes de la monarchie, Musil étant un écrivain de l'Autriche germanophone, un écrivain viennois, et Roth étant un écrivain des marges, un écrivain de la périphérie, de cette lointaine Galicie. Et c'est peut-être le fait que Roth venait de la lointaine Galicie et qu'il connaissait l'importance des structures de l'Empire austro-hongrois pour cette province-là, pour qu'elle bénéficie en quelque sorte aussi des bienfaits de l'Empire, qui fait qu'il y a chez lui cette nostalgie qui me semble vraiment beaucoup moins forte chez Musil, où la verve satirique est vraiment très très prononcée.
Curieusement, il me semble que c'est un roman sans politique, c'est-à-dire que Roth s'intéresse au prestige, s'intéresse à la magie en quelque sorte de la monarchie, à la façon dont elle s'effondre, mais il n'y a pas de détails politiques à proprement parler qu'il aurait pu rappeler. Par exemple, il s'agit au début de la bataille de Solferino, et il aurait pu rappeler qu'au retour de Solferino, François-Joseph, l'empereur, a été hué, et il ne le fait pas. Donc, c'est un roman qu'on ne peut pas dire politique.
Je suis entièrement d'accord avec vous et je crois que cela tient pour beaucoup à la perspective narrative qui est adoptée, puisque Roth fait le choix dans ce roman de se placer systématiquement du point de vue extrêmement limité, extrêmement partiel de ses personnages. Et l'histoire de l'Autriche-Hongrie finissante est vue soit par le préfet, qui regarde complètement médusé ce qui est en train de se passer à l'intérieur de la province qu'il administre, soit par le regard de Charles-Joseph, qui est un simple lieutenant, tout d'abord de cavalerie, puis d'infanterie, et qui ne brille par ailleurs pas spécialement par son intelligence. Roth signale que c'est un personnage peu loquace déjà, il s'agit d'une intelligence moyenne, il ne porte pas un jugement pour autant négatif, mais c'est un personnage qui n'est pas capable du grand survol, qui n'est pas capable de hauteur de vue, et en choisissant ces visions partielles, Roth finalement va essayer de nous montrer l'écart qui se creuse de plus en plus entre ces représentants de la monarchie, qu'ils appartiennent à l'armée ou qu'ils appartiennent à l'administration, et les évolutions qui sont en train de se développer. Et pour ces évolutions-là, les personnages n'ont qu'incompréhension. Ils les constatent quand vraiment elles deviennent trop visibles, mais ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas comment réagir, ils ne savent pas comment les interpréter. Et, par exemple, la grève ouvrière est interprétée de manière complètement erronée, à supposer qu'elle soit interprétée par Charles-Joseph von Trotta, de même que le préfet von Trotta, quand il a affaire à des meneurs révolutionnaires, les classe rapidement dans la catégorie individu suspect. Et il a une case pour ça et ça lui évite de réfléchir.
Stéphane Penel, que vous a appris le personnage de Charles-Joseph von Trotta ?
Je dois dire que c'est une question assez difficile parce que, comme vous l'avez dit vous-même, c'est un personnage de anti-héros, c'est un personnage par lequel Roth déconstruit le mythe de l'héroïsme, déconstruit le héros de roman stendhalien en quelque sorte, puisqu'il y a un petit peu des emprunts à Stendhal en quelque sorte. Roth aimait beaucoup Stendhal, c'est celui dont il se sentait le plus proche, et on sait que dans La Chartreuse de Parme, on commence par le versant héroïque et puis on va finir par le versant intimiste, mystique, idyllique, et il y a un petit peu cette dualité qui est reprise dans La Marche de Radetzky, sauf que ni l'héroïsme ni l'idylle ne fonctionnent. Et de fait, Charles-Joseph est une version caricaturale du grand héros stendhalien ou du grand héros romanesque du XIXe siècle, puisque tout échoue pour lui. Et c'est un personnage de anti-héros, c'est un personnage qui ne brille pas, je l'ai dit, par ses capacités intellectuelles, il ne brille pas par son héroïsme, et c'est un personnage auquel il est finalement assez difficile de s'identifier pour un lecteur. Mais il y a quand même quelque chose qui m'intéresse chez lui, c'est cette capacité à, in fine, s'affranchir des tutelles et à réaliser son rêve. Même si ce rêve, il ne va le réaliser que de manière très fugace, il va seulement, pendant quelques jours, quelques semaines, retrouver sur un mode ironique, peut-être de la part du narrateur, cette idylle paysanne slave dont il rêvait, et cela se fait au prix de son insistance à recouvrer sa liberté. Et là, il y a quelque chose dans le personnage qui me touche et qui m'apprend beaucoup, de même que son geste final d'aller chercher de l'eau pour ses soldats sur le champ de bataille, qui est d'un point de vue militaire une aberration, puisqu'on ne s'expose pas quand on est officier au feu des balles ennemies. Ce geste-là est en même temps un geste d'amour du prochain, un geste de bienveillance. Et c'est peut-être une des premières fois aussi dans le roman où le personnage fait vraiment quelque chose pour autrui. Donc il y a quelque chose d'un petit peu désespéré dans cette réalisation finale de soi, mais je trouve qu'elle est émouvante, et c'est peut-être ça que je retiendrai de ce personnage.
C'était Personnage en personne, le 76e. Réalisation Clotilde Pivin, attachée de production Pascaline Bonnet.
Comme si j'étais assis.
Dans un instant, une saison au théâtre avec Joël Gaillot.
Là-haut, paradis. De l'autre côté de ma vie, le paradis. À vie. C'était un grand jeudi.